Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïca réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver au Parlement européen pour une nouvelle émission Fréquence Europe, l'émission sur l'Europe des radios Judaïca Strasbourg et Bruxelles. Voilà, on y arrive enfin, 6 mois jour pour jour depuis les élections européennes. La présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présentera son équipe de commissaires et son programme aux députés européens. À l'issue d'un débat, les députés décideront, à la majorité simple, d'approuver ou non la Commission européenne dans son ensemble. Au cours de cette session, les députés ont débattront également de l'urgence climatique. Avant les négociations sur le climat de la COP25 à Madrid, le Parlement devrait appeler l'Union européenne à jouer un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique. Les députés voteront jeudi sur 2 projets de résolution appelant l'Union européenne à étendre, à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Autre sujet, le budget de l'Union européenne pour 2020, budget qui devrait être en hausse et encourager les investissements pour la lutte contre le changement climatique, la recherche, les infrastructures et les jeunes. À l'occasion de cette session, nous avons le plaisir de recevoir la toute nouvelle députée européenne Marie-Pierre Vedren. Bonjour Madame Vedren.
Bonjour.
Alors merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission. Et avant de dialoguer avec vous et afin de mieux vous connaître, je vous propose tout d'abord d'écouter votre portrait.
Madame Vedren, bonjour. Vous êtes députée européenne, nouvellement élue lors des élections européennes du 26 mai. Investie sous l'étiquette du Modem, vous figuriez en 3e position sur la liste Renaissance, menée par l'ancienne ministre des Affaires étrangères et la tête de liste, Nathalie Loiseau. Originaire de Limoges, vous avez 36 ans, vous êtes installée en Bretagne, à Rennes, ville dans laquelle vous avez d'abord terminé vos études en droit public par un master en droit de l'Union européenne et de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Vous y poursuivez ensuite votre carrière professionnelle, notamment au sein de la Maison de l'Europe de Rennes, dont vous serez la directrice jusqu'à votre élection au Parlement européen. L'Europe est un peu le fil conducteur de toute votre vie, vos études, votre travail et même votre engagement associatif au sein du mouvement européen et qui se poursuit désormais avec ce mandat de députée européenne. Ainsi, même si vous êtes une novice en politique, vous n'arrivez pas au Parlement européen en terre inconnue. Afin de mettre au profit vos compétences, vous avez choisi de travailler au sein de la Commission du commerce international ainsi que dans la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique-Caraïbes-Pacifique-Union européenne, dont vous êtes pour les deux la vice-présidente. Enfin, afin de rester en lien avec les citoyens comme vous l'avez été au sein de la Maison de l'Europe, vous siégez également dans la Commission des pétitions. De quoi bien occuper votre nouveau mandat européen.
Voilà, alors on a juste glissé une petite erreur dans notre portrait. Hein. Nathalie Loiseau était ministre des Affaires européennes et non pas ministre des Affaires étrangères. Alors pourquoi ce choix de l'Europe finalement, c'est votre famille, vos études. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous diriger vers ce choix de l'Europe?
Déjà, je vous remercie de ce portrait qui est vraiment en écho avec la réalité. Donc, merci beaucoup. Ce choix, en fait, il a été fait de manière naturelle parce que vous l'avez rappelé, je suis originaire de Limoges. Et quand j'étais à l'école primaire, j'ai visité Oradour-sur-Glane, qui a été un village qui a été dévasté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, au fur et à mesure de mon parcours, de rencontres, de lieux que j'ai visités, tout m'a toujours ramené vers Oradour-sur-Glane, vers le fait qu'à un moment, il y a des hommes qui ont eu le courage de s'unir malgré tout ce qui pouvait les opposer pour construire la paix, pour défendre des valeurs, pour défendre la liberté. Et c'est ce à quoi je suis profondément attachée, à la liberté. Et pour moi, l'Union européenne, ça représente un espace où des gens, au-delà de leurs différences, sont capables de se mettre autour d'une table pour régler leurs problèmes. Et c'est ce à quoi je crois. Donc je me suis engagée naturellement d'abord de manière associative aux jeunes européens, au mouvement européen pour défendre l'Union européenne parce que je suis convaincue que c'est le bon échelon pour répondre à des défis auxquels nous sommes confrontés, le changement climatique, mais aussi les questions migratoires et puis défendre les valeurs auxquelles on croit. Donc ça a été en fait complètement naturel de m'orienter vers l'Union européenne de manière voilà, associative et après avec mes études parce que justement s'engager pour La défense des valeurs, c'était une chose, mais derrière, je ne savais pas forcément comment ça fonctionnait. Et je me rendais compte aussi que dans mon entourage, quand je parlais des questions européennes, tout le monde avait un petit peu tendance à me dire « Oui, bon, Marie-Pierre, c'est bon, on a compris. » Justement, je trouvais que les gens ne comprenaient pas, et moi non plus, je ne comprenais pas le fonctionnement. Donc, je me suis orientée d'abord dans des études en droit européen, et puis ça s'est concrétisé par un engagement après professionnel à la Maison de l'Europe. Et naturellement, aussi cette volonté, puisque vous avez dit que je suis novice en politique. Effectivement, c'est mon premier mandat, donc sur cet aspect-là, vous avez totalement raison. Mais je me suis dit, justement, au-delà de l'engagement seulement associatif et professionnel, on est à une période où, si on veut faire évoluer les choses, il faut s'engager politiquement. Donc c'est pour ça que j'ai postulé et j'ai eu cette chance d'être troisième sur la liste Renaissance.
Vous venez passer à un autre échelon. Donc, vous avez été surprise à certains égards en arrivant ici au Parlement européen, malgré tout ce que vous connaissiez. Est-ce qu'il y a des aspects du poste de député européen qui vous ont surprise ?
Forcément, il y a des choses qui surprennent parce que quand on est justement travaillant dans un centre Europe direct, dans les maisons de l'Europe, on connaît la machine, mais pas forcément totalement de l'intérieur. Donc il y a des choses qui surprennent. Je me souviens de la première fois où je suis rentrée dans l'hémicycle, véritablement, où j'ai pris mon siège en tant que parlementaire. On se sent à la fois très petit, c'est-à-dire qu'on est 1 sur 751 et du coup ça appelle à beaucoup d'humilité, je trouve. Et puis il y a ce poids quand même de la responsabilité parce que vous êtes là pour représenter 500 millions de citoyens et faire avancer des sujets auxquels justement il y a eu un sursaut de participation aux élections européennes. Donc ça a été un grand moment pour moi entre voilà partage d'humilité et responsabilité. Et puis dans le fonctionnement aussi, ce Parlement européen à Strasbourg, il est magnifique. Je suis assez impressionnée par le nombre de kilomètres que je parcours au sein de cette institution où je crois que à l'époque, on voit un rejet un petit peu des politiques de manière globale. Moi, en tout cas, j'arrive le matin, il est entre 7h et 8h et je ressors, il est 22h, 23h, tout en comptant les off, etc. Je crois qu'il y a un engagement considérable d'une grande, grande majorité des parlementaires qui n'est pas forcément visible de tous les citoyens, et ça c'est dommage.
C'est vrai que c'est un bâtiment, on en parcourt des kilomètres, on pourrait y faire du sport ici. Alors, jusqu'à cette élection, donc, vous travaillez à la Maison de l'Europe de Rennes, vous étiez donc en contact régulier avec le public. Que retenez-vous de cette expérience et comment celle-ci influence désormais votre activité de parlementaire européenne ? Est-ce que finalement vous en faites un lien ou pas, ou est-ce que pour vous, vous êtes passé à autre chose ?
Ah non, je suis pas du tout passée à autre chose. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Jeanne-Françoise Hutin, qui est la présidente de la Maison de l'Europe, je l'ai à peu près soit au téléphone, soit je la vois au moins deux fois par mois. Donc non, je suis pas du tout passée à autre chose. Parce que justement, quand on vient d'échanger sur mon parcours, l'Europe, ça a été ce fil conducteur. Donc la Maison de l'Europe, pour moi, c'est aussi ce qui m'a permis de devenir députée européenne. Donc mon cœur, il reste aussi à la Maison de l'Europe. Et il reste à la Maison de l'Europe parce que, justement, je suis attachée à l'Europe des citoyens. Je suis attachée au fait que l'Union européenne, elle doit communiquer et répondre aux attentes des citoyens. C'est vraiment un vase communicant dans les deux sens. C'est pour ça que je suis membre de la commission pétition, justement parce que cette commission, elle permet aux citoyens de s'adresser au Parlement, aux médiateurs pour faire bouger les lignes. Et puis inversement, moi, mon rôle de parlementaire, je le conçois comme il faut être extrêmement présente en commission, à Strasbourg, en session pour les votes, parce qu'on a vu que des fois, les votes se jouaient à deux voix. Donc c'est important d'être aussi en session. Mais c'est important d'expliciter les choses sur le terrain. Et les maisons de l'Europe, les centres d'information d'Europe directe, ils ont aussi besoin des parlementaires pour qu'ils expliquent tous les rapports de force qui se jouent au sein du Parlement.
Alors, vous parliez de cette commission des pétitions. Alors, cette commission des pétitions dans laquelle vous siégez, hein, on l'a dit dans notre portrait, elle a cette vocation de répondre à des demandes. Hein, c'est un droit du citoyen que les citoyens peuvent s'adresser à vous de cette manière-là. Et il y a aussi un élément qu'on ne connaît pas, c'est que vous avez parlé du médiateur européen, mais vous allez voter pour le futur médiateur européen avec cinq candidats. Donc, comment s'opère la question que je me posais, puisque vous les avez auditionnés, comment s'opère le choix ? Est-ce qu'il y a un choix cette fois-ci politique ? On l'a dit au départ, vous êtes dans le groupe, vous étiez dans la famille politique Renew, hein, avec Renaissance et La République En Marche. Comment finalement vous allez faire un choix ? Est-ce qu'il y a un choix de Renew pour telle personne ? Ou est-ce que vous allez les écouter et dire celui-là je l'aime bien, celui-là je l'aime pas, celui-là il me paraît... Comment ça choisit ?
Vous voyez, aujourd'hui j'avais une réunion de délégation et le point sur le médiateur était justement à l'ordre du jour. Donc moi, en tant que membre de la commission pétition, j'ai rencontré plusieurs candidats à ce poste. Donc nous, on en a éliminé un d'office, c'est-à-dire qu'il y a un candidat qui est en lien avec le groupe ID, Identité et Démocratie, donc l'équivalent du Front National. Donc pour nous,
c'est celui-là que j'ai oublié quand j'ai dit.
Voilà, c'est pour ça que je pense que vous étiez sur quatre. Celui-ci celui-ci, il est mis de côté. Ensuite, moi, j'ai rencontré les trois femmes candidates. Donc, l'actuelle médiatrice, Emilio Railé, Cécilia Wikström et Julia Lafranque, pour voir quelles étaient leurs visions sur ce poste de médiateur. Parce que, justement, il est peu connu des citoyens, alors qu'il a un rôle considérable. Donc ça, ça a été un des éléments de nos échanges. Et puis, ça, c'était ces échanges off que je pouvais avoir, moi, en direct avec les candidats. Et puis, là, nous allons avoir un échange en groupe, Renew. Les quatre candidats vont venir devant l'ensemble du groupe qui est composé de 107 parlementaires pour échanger sur leur vision, sur leur rôle et comment ils conçoivent ce poste. Et puis après, il va y avoir une audition début décembre dans la commission pétition d'une heure par chaque candidat. Et ensuite, il y aura un vote à la session de Strasbourg en décembre qui sera un vote à bulletin secret. Donc pour nous, c'est important aussi voilà, de savoir quelles sont véritablement leurs visions à chacun de ces candidats parce que c'est un rôle complémentaire du rôle de parlementaire et du rôle des autres institutions européennes.
Surtout, je pense que le public ne sait pas que le médiateur, donc, qui a étudié des plaintes du citoyen directement sur la mauvaise action des députés de l'Union européenne,
oui.
Et ensuite, mais il est élu par les députés. Donc le médiateur, ce n'est pas un fonctionnaire, il est élu par vous.
Exactement. Et puis, il a un rôle, Emilio Railé a joué un rôle assez considérable sur le sujet de la transparence. Aussi. Et ça, c'est une demande véritablement des citoyens, qu'il y ait davantage de transparence, parce qu'on reproche que l'Union européenne, c'est pas démocratique. Moi, je m'inscris totalement en faux. L'Union européenne, elle est démocratique, mais il y a des choses qui sont perfectibles et le médiateur y contribue. Donc ça aussi, c'est des éléments importants à porter à la connaissance de tous.
Pendant cette session, vous allez élire la nouvelle Commission européenne. Donc, on sort de tout ce qui est un peu droit du citoyen médiateur. Donc, selon toute vraisemblance, la Commission européenne aura été approuvée par le Parlement européen. Pour de nombreux observateurs, le refus de trois candidats commissaires, un record, aura montré à quel point le nouveau Parlement européen est divisé. Êtes-vous d'accord avec ce diagnostic? Voilà la question. Est-ce que le Parlement est divisé? Car contrairement aux années précédentes, il n'y a pas vraiment deux partis qui dominent. Il y en a trois, voire quatre. Et pour certains, cela démontre que finalement, il y a une petite guéguerre entre familles politiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic ?
Vous avez raison dans le sens où le Parlement européen, il a changé. On n'a plus une majorité avec les conservateurs d'un côté et les sociaux-démocrates. Maintenant, il faut faire avec Renew et c'est très bien. Il faut faire aussi avec les Verts. Nous, ce qu'on a essayé de construire justement, et c'est là où on veut engager aussi les Verts, c'est un contrat de coalition entre ces quatre partis pro-européens. Il faut défendre les valeurs européennes et il faut défendre l'Union européenne. Je pense que les refus des trois commissaires désignés, certains étaient prévisibles, parce que le Parlement européen aussi, soyons honnêtes, il a besoin de s'affirmer vis-à-vis des autres institutions. C'est la seule institution élue au suffrage universel direct, on le rappelle depuis le début de cette émission. Donc il faut qu'il puisse s'affirmer aussi vis-à-vis de la Commission, vis-à-vis du Conseil, montrer... Attention, il va falloir compter avec nous. Et il va falloir compter avec un nouveau Parlement qui fonctionne différemment. La problématique qui peut voir le jour, c'est une instabilité politique au sein du Parlement européen. C'est pour ça que nous, on demande Renew ce contrat de coalition pour faire en sorte d'avoir une majorité quand même assez stable pour porter les ambitions telles que l'ont demandé les citoyens, notamment sur le Green Deal, notamment sur le numérique. Il y a des enjeux qui sont forts où il nous faut aller de l'avant pour répondre aux attentes des citoyens et répondre aux défis de ce siècle. Donc, le Parlement européen doit s'affirmer, mais il doit s'affirmer de manière intelligente pour pouvoir peser. Et puis, j'ai envie de rappeler une chose, c'est que la Commission européenne, à l'heure actuelle, c'est la seule institution qui a le pouvoir d'initiative. Et là aussi, la Commission von der Leyen, la présidente de la Commission, s'est montrée plutôt ouverte à ce que le Parlement européen ait un droit d'initiative. Donc là, le Parlement européen doit aussi pousser les choses pour qu'il y ait véritablement ce droit d'initiative. Et plus globalement, et pour faire le lien avec les citoyens, un des axes qu'on porte au sein de Renew, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe. Parce que justement, il va falloir, sur beaucoup de sujets, faire sauter le verrou de l'unanimité et la conférence sur l'avenir de l'Europe peut le permettre pour changer un petit peu les traités. C'est ça, changer. Faire évoluer les traités, c'est ni un totem ni un tabou. Il faut poser un véritable débat de fond pour pouvoir faire en sorte que justement les blocages auxquels on est confronté à l'heure actuelle, on puisse passer outre pour aller plus en avant.
Mais vous savez, vous, en tant qu'ancienne d'une maison de l'Europe et d'un Europe direct, que c'est dur de faire ratifier des traités par le citoyen. Plutôt, vous avez été élue présidente de la commission, vice-présidente de la commission du commerce international, et vous aurez à ce titre la charge d'approuver les accords de libre-échange type Mercosur négociés par la Commission européenne. Vous avez aussi auditionné le nouveau commissaire européen Phil Hogan en charge de cette politique. Quels sont pour vous les objectifs de cette politique? Déjà, pourquoi vous êtes engagé on l'a vu par rapport à vos études et votre formation, mais pourquoi vous êtes engagé dans cette commission? Et quels sont pour vous les garde-fous? Quelles sont vos lignes rouges qu'il ne faudra pas franchir sur cette thématique-là?
Vous avez raison de rappeler que le pourquoi de mon engagement dans cette commission, c'est parce que aussi, voilà, j'ai étudié ces sujets. Quand j'étais à la Maison de l'Europe, j'ai travaillé avec la Commission européenne sur le CETA, sur le défunt TTIP. Et c'est des sujets qui sont extrêmement clivants. Moi, je fais partie d'un groupe, Renew, qui est un groupe libéral. On va pas se mentir. Qui est un groupe qui défend les accords commerciaux. Pour autant, défendre la politique commerciale, c'est pas défendre tout et n'importe quoi. C'est défendre une politique qui est basée sur des règles, qui est basée sur le multilatéralisme. Moi, je crois profondément au cadre multilatéral. Et on voit qu'à l'heure actuelle, certains États, notamment Donald Trump, pour pas le citer, tout ce qu'il veut, c'est mettre fin au commerce juste et équilibré, et c'est mettre en place un protectionnisme exacerbé. Et ça, pour moi, c'est pas les solutions, c'est du perdant-perdant. Et ce que je veux construire au sein de cette commission commerce internationale, c'est une vraie vision qui a des lignes rouges, justement. Et ces lignes rouges, c'est par exemple ne pas conclure un accord avec un pays qui ne ratifie pas les accords de Paris. Ça a été clair pendant la campagne et ça sera clair pendant ces 5 ans. Nous, on votera contre tout type d'accord avec des pays qui ne ratifient pas l'accord de Paris.
L'accord sur le climat, oui.
Ça, c'est véritablement essentiel. C'est pour ça que Il faut qu'on arrive à changer un petit peu et à pas être dans des positions dogmatiques. Il faut pas opposer commerce versus environnement. Il faut travailler tous ensemble pour trouver les bonnes solutions.
C'est la question à laquelle je venais. Au cours de cette session, le Parlement européen devrait déclarer l'urgence climatique et écologique, et même à votre demande, du parti de votre groupe politique Renew. Ne pensez-vous pas qu'il y a une certaine contradiction entre le développement des échanges commerciaux et la lutte contre le réchauffement climatique? Pour beaucoup, c'est assez contradictoire, puisque importer des bovins venant de la zone Mercosur, ça peut se dire on a ce qu'il faut ici. Pourquoi avoir besoin de faire cela?
C'est quelque chose qui peut paraître antinomique quand on l'expose de la façon dont vous venez de faire, mais c'est pas le cas. Moi, je crois au fait qu'on ne doit pas opposer commerce versus écologie. Qu'il nous faut par contre, et vous évoquiez dans votre introduction le budget, avoir des éléments qui soient des lignes budgétaires qui aillent sur l'innovation, la recherche, pour faire en sorte que justement tout ce qui a trait au transport maritime, on ait des véritables évolutions pour moins polluer. Et puis il y a certains produits, malheureusement, qu'effectivement on ne produit pas sur le territoire européen. On a fait des choix à des époques qui ont des conséquences maintenant. Donc il faut aussi garantir de manière globale une autonomie et une stratégie, notamment en termes alimentaires sur le territoire européen. Et il faut, moi je suis très heureuse que mon collègue suppléant de ma délégation, c'est Jérémy Decerle. Et moi, je travaille extrêmement bien avec lui, justement, sur ces accords commerciaux.
C'est un spécialiste de l'agriculture.
Exactement. Pour faire en sorte que l'agriculture ne soit jamais une variable d'ajustement dans les accords commerciaux. Et c'est pour ça qu'on porte aussi un élément central dans cette politique commerciale, c'est ce qu'on appelle le Chief Trade Enforcement Officer. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est « Ok, c'est bien de conclure des accords ». C'est une première étape, ça permet d'éliminer les droits de douane, de renforcer les standards, notamment de travailler sur les droits de l'homme, très bien. Mais après, une fois qu'on a conclu ces accords, il faut faire en sorte qu'ils soient contrôlés et qu'ils soient suivis. Et ce Chief Trade Enforcement Officer, il doit servir à ça, ce procureur, si vous voulez. Faire en sorte que des produits qui rentrent sur le territoire respectent sur l'ensemble de la chaîne de valeur nos normes. Parce qu'on ne peut pas augmenter les standards à l'intérieur du marché européen et importer des produits qui ne respectent pas toutes ces qualités. Alors, on dit que oui, les produits qui rentrent sur le territoire, ils respectent ces qualités. Mais au niveau de l'ensemble de la valeur, là, il y a des choses à faire évoluer. Et puis, effectivement, il y a les questions de la vérification, parce que les autorités de contrôle ont peu de moyens pour contrôler l'ensemble des produits. Et je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré une entreprise de mon territoire, d'Ille-et-Vilaine, qui m'évoquait toutes les problématiques de contrefaçon des briquets. Ça conduit à 35 000 accidents par an en Europe. C'est considérable, avec des brûlures au deuxième et au troisième degré. Donc, c'est pour ça que le Chief Trade Enforcement Officer, c'est véritablement essentiel. Et dans cette politique commerciale, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut de la réciprocité, notamment sur les questions des marchés publics. On ne peut pas, nous, ouvrir nos marchés et que nos partenaires avec lesquels on conclut des accords, eux, ne l'ouvrent pas. Donc, réciprocité dans la politique commerciale, ce sera également un de mes combats.
Alors, il y a un autre sujet, mais qui est lié, c'est le Brexit. Le Brexit fait toujours partie de cette actualité. Je pense que ça va aussi occuper votre mandat, mais cette fois-ci dans la deuxième phase, dès que l'accord sera approuvé, c'est notamment la négociation des futurs accords de partenariat avec l'Union européenne, qu'on pourrait appeler accord d'association, mais on ne sait pas encore vraiment comment ils vont s'appeler. Y a-t-il, selon vous, un risque de voir le Royaume-Uni mener une politique commerciale agressive vis-à-vis de l'Union européenne et un risque de distorsion de concurrence, mais cette fois-ci d'un partenaire, d'un ancien partenaire tout proche?
Alors le Brexit, c'est toujours un sujet assez sensible parce qu'on ne sait jamais comment ça va se finir et on ne sait jamais si un jour ça va réellement se finir. Ce qui est par contre important de noter, et là je veux saluer le travail de Michel Barnier, c'est qu'on a réussi à préserver l'unité européenne. Maintenant, la balle est dans le camp des Britanniques. Et c'est vrai qu'on ne parle pas trop de la future relation parce qu'il faut déjà que la fin de relation, elle soit clôturée. Ça sera au sein de la Commission du commerce international que nous travaillerons sur ce sujet. Tout l'enjeu pour nous, ça sera de construire un partenariat équitable et faire en sorte que justement, il n'y ait pas de nouvelles distorsions de concurrence qui se créent avec ce partenaire et surtout en Irlande du Nord et la République d'Irlande où là, on peut avoir des difficultés.
Je vais passer la parole dans le cadre de Catch the Eye.
Catch the Eye.
We now move to Catch the Eye.
Catch the Eye.
Alors, la rubrique AGI, c'est des questions courtes, réponses courtes. C'est une procédure de l'Union européenne hein, dans le Parlement, dans l'hémicycle. Hein, quand vous voulez prendre la parole et que vous n'avez pas été autorisé à la prendre avant, vous n'êtes pas inscrit, vous avez quand même la possibilité de prendre la parole pour un temps court. Alors, question courte, réponse courte. Quelle est pour vous la plus grande réussite de l'Union européenne ?
La paix.
Son plus grand échec ?
Son plus grand échec.
On ne peut pas toujours être positif.
Non, c'est.
Il y a peut-être des choses qui vous conviennent moins.
C'est les égoïsmes nationaux qu'on n'arrive pas à surpasser pour faire en sorte de véritablement répondre aux attentes des citoyens.
Alors cette fois-ci, dans votre travail, si on parle en 24 langues, quelle est votre langue préférée, hormis le français ? Pas celle peut-être où vous exprimez, mais celle que vous aimez le plus ?
J'aime beaucoup l'allemand, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, je trouve que c'est une langue qui a un air chantant et j'aime beaucoup.
Quel est votre plat préféré, tiens ?
La pizza.
C'est pas très bon.
J'aime bien parce que là justement il y a un air d'Italie, vous voyez, donc c'est l'Europe. Mais...
Et on va terminer. Si vous aviez un conseil, lecture, musique, expo à faire à nos auditeurs, que leur conseillerez-vous ? Ça peut être une expo que vous avez vue ou peut-être un concert où vous avez été ou un livre que vous avez lu ou je ne sais pas.
Je vais rester dans ma délégation. Le dernier livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est Gilles Boyer. Et je lui dis à chaque fois que je le vois. Donc maintenant, je suis en train de lire ses livres par antériorité. Mais j'ai beaucoup aimé le dernier livre de Gilles Boyer.
Gilles Boyer, qui est donc questeur au Parlement
Exactement.
Européen également. Merci à Madame Védrenne pour votre participation à l'émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. L'émission sera rapidement en podcast sur le site de la radio. À bientôt pour une nouvelle émission Fréquence Europe.